Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux qui la font. Et cette semaine on parle théâtre avec le comédien Emmanuel Noblet. Après avoir cartonné dans Réparer les vivants, tiré du livre de Maïlys de Kerangal qu'il mettait également en scène et qui lui a valu le Molière du Seul en scène en 2017, Emmanuel se retrouve jusqu'au 9 novembre sur la scène du Petit Saint-Martin dans Les Baux, en duo avec Émilie Navarre dans une pièce mise en scène par Côme de Belsize, à partir du texte de Léonore Confino, publié chez Actes Sud Papier. Dans cette pièce, on fait la connaissance de Ken et de Barbie, dont l'amour parfait est mis en lumière à travers les yeux d'une petite fille, Alice, qui s'échappe de ses parents grâce à ses poupées. Et puis la pièce prend une nouvelle tournure et on se retrouve face aux véritables parents, qui n'ont plus rien de Ken et de Barbie. Entre les tiraillements d'un couple moderne, les véritables questionnements sur le sens des sentiments, sur la place de l'enfant, mais aussi sur notre époque, Les Baux se jouent sur scène avec un ton décalé, et je trouve plein de pertinence. Et avec Emmanuel, on va parler de la force théâtrale de ce couple aujourd'hui, sur ce qui déclenche le rire ici, mais aussi de ses modèles à lui, ou encore de ses débuts au théâtre, assez singulier. Bonne écoute. Salut Emmanuel.
Salut.
Alors, dans une première strate de lecture, c'est une pièce que je trouve très distrayante, très drôle, et puis elle devient peu à peu acide et un peu folle parfois, grâce ou à cause d'ailleurs à ce couple qu'il est tout autant. Pour toi, la force théâtrale de ce couple précisément, elle tient à quoi ?
Hein ? La force théâtrale à chaque fois, c'est, je dirais pour moi, c'est deux choses, c'est une situation, ouais, et une langue.
Ok.
Voilà, moi je connaissais, c'est la première fois que je joue un texte de Léonore Confino. Ce que j'aime dans sa langue, c'est une parole totalement actuelle, moderne, et qui a beaucoup de, bon, il y a des punchlines, il y a des bons mots,
c'est vrai,
mais qui les cultive pas non plus, qui fait pas trop d'effet. Et puis la situation d'abord il y en a deux, et ça c'est assez rare. Moi c'est la première fois que je joue dans une pièce où je fais une première partie et je sais que ça n'a rien à voir avec le reste.
Une première partie qui dure pas non plus
ouais, une intro, ça dure
presque
10 minutes.
Ouais.
Ouais, c'est comme une intro dans la pièce, et sauf en ayant joué dans la même pièce des personnages différents et qui avaient rien à voir les uns avec les autres, ça m'était jamais arrivé. Mais là c'est comme jouer plusieurs rôles, parce qu'effectivement je sais pas, on le raconte, on le dit,
ouais. Je sais pas, comme
ouais,
tu veux,
autant le dire, parce que ça a été mis dans la ouais, presse d'ailleurs. On joue Barbie et Ken au début. Et on doit comprendre, le spectateur doit comprendre qu'en fait, ces deux, ce couple improbable, parce qu'il est réel, personne dans la vie ne passe son temps à se dire sincèrement tu es beau, tu es belle, tu es magnifique,
et
tout va bien,
aussi,
et à
beaucoup,
se toucher tout le temps. Ça, dans la vie, c'est bien, mais ça
c'est
dure
bien,
pas toujours très longtemps.
C'est pas tout le temps non plus.
mais bref, ce couple improbable n'est qu'un couple de poupées, joué, manipulé par une fille de 7 ans qui, dont les parents s'engueulent dans la pièce d'à côté. Et on doit comprendre qu'elle reproduit en merveilleux l'exact contraire de ce que se disent ses parents. Et après, donc, on joue les parents qui sont effectivement des monstres d'égoïsme et de puissance, et de mal-être dans cette société actuelle. Et donc jouer Barbie et Ken, et ensuite jouer des gens au bord du burn-out aujourd'hui, passer de l'un à l'autre, ça comme situation de jeu, c'est hyper excitant.
Est-ce que je me suis posé une question, je me suis demandé si le personnage principal de la pièce finalement c'était pas Alice en l'occurrence. Je te dis ça car pour moi la crise des parents et l'idéalisation naturellement de Ken et de Barbie viennent principalement des troubles et des tracas de Alice, ce que le titre original d'ailleurs de la pièce, Enfantillage, viendrait renforcer.
Ouais, exactement, ouais, je crois que c'est très juste. Le personnage principal de la pièce, c'est Alice, c'est une fille de 7 ans qu'on ne voit pas, qu'on imagine.
Oui, c'est ça, vous n'êtes que deux,
voilà,
sur scène.
On n'est que nous deux, et elle n'est pas facile à imaginer d'ailleurs, je me dis, pour le spectateur. Et pour Côme de Belsize, le metteur en scène, c'était un des enjeux dramaturgiques à faire comprendre, comment on passe de cette première partie à la deuxième. Mais oui, c'est le personnage principal, c'est la porte d'entrée dans cette histoire d'adulte, c'est une vision d'enfant. Et je pense que l'empathie des spectateurs, elle passe par Alice. Et est-ce qu'ils ont envie ou non, d'ailleurs, qu'elle revienne dans ce couple néfaste, parce que ce couple va très mal. Je pense que ça joue beaucoup aussi comme lecture de la pièce.
C'est la porte d'entrée, c'est en même temps la clé, je trouve, de la pièce. Alors, comme toutes les pièces, j'imagine, parce que je suis pas comédien, il y a des points de rendez-vous où on attend que le public crie. Et que c'est susceptible de varier d'un soir à l'autre, évidemment.
Ouais.
Qu'est-ce qui, toi, te fait rire dans cette pièce?
Ah, c'est bizarre parce que je crois que j'ai oublié ce qui me faisait rire. Parce
okay,
que justement, mon personnage, il est désespéré, il va très très mal et rien ne le fait rire. Il est à bout de nerfs, à bout de tout et juste, il peut rire par désespoir quand sa femme lui demande juste de parler, mais il lui dit, mais ça sert à quoi de parler? Et il dit rien, mais juste qu'on parle. Il rit de
c'est vrai
ne
qu'on
plus
dirait
en
presque de
pouvoir.
l'absurde, quoi.
Voilà, mais j'ai tellement le point de vue de ce
Ouais, que ça en
pauvre
devient.
homme que plus, ça me fait pas rire. Alors après, c'est aussi que de l'intérieur, je crois que c'est une des clés des comédies, quand on joue une comédie, c'est que nous, ça nous fait pas rire. C'est-à-dire que nous, c'est parce que plus on est tragique,
Ouais.
plus on vit une tragédie, plus cette tragédie ou cet absurde devient drôle pour le public. Il y a des bons mots qui m'ont fait rire à la lecture et je me suis dit ça va être très drôle à jouer et excitant. Mais même ça devient, je vais même dire une chose, c'est que ça devient un moteur pour moi quand le public se marre de forcer le drame. C'est-à-dire comme si je luttais contre leur rire. Et avec en début de deuxième partie, quand ce pauvre type pète un plomb parce qu'on lui a piqué son jambon, c'est complètement stupide, on est d'accord. Mais pour lui,
Pour le
c'est un
coup.
enjeu de vie ou de
Ouais,
mort.
mais
C'est-à-dire
ça
que
en devient risible, justement.
c'est la seule chose qui lui reste.
Ouais.
Et plus ça fait marrer les gens de voir un mec péter les plombs pour ça, plus moi, ça m'endurcit dans le drame.
Justement, en parlant de cette scène, est-ce que tu as une scène que tu préfères jouer, qui est particulièrement jouissive à jouer?
Moi, j'allais dire que le plaisir est dans le changement, donc vraiment
Ok.
passer de l'un à l'autre, et c'est là où la pièce est bien construite et qu'on est très bien dirigé par Côme pour tous les. Parce qu'on a des passages de relais, des hauts, des bas, et vraiment on passe un peu par tous les états. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Alors, j'aime bien effectivement, après avoir fait le monde merveilleux des Barbie, commencer par cette scène d'engueulade de la deuxième partie, ça c'est quelque chose qui est. Voilà, faut
Ouais, qui est assez
envoyer un peu.
forte, toute proportion gardée
Ouais,
sur ce terme, mais.
moi j'aime bien ça. Après, j'aime aussi, et c'est un travail comme acteur parce que ça m'est arrivé de craquer véritablement en répétition. On craque pas tous les soirs avec le même naturel d'émotion, mais il y a un moment où ce personnage craque et tombe le masque et retire son armure. Et ça, c'est un travail de retrouver la sincérité de ça tous les soirs. C'est
C'est un
agréable de
travail.
passer par là. Ouais, c'est un travail.
Mais oui. En quoi la musique conditionne-t-elle ton jeu? Parce qu'elle est assez présente, voire très présente dans la pièce.
Ouais.
Elle conditionne des ambiances, elle sépare des actes, parce que c'est des actes.
Ouais, il y a trois parties. Ouais.
Oui, des parties.
Ouais.
Est-ce qu'elle est importante dans ton jeu de comédien?
Ah oui, c'est important, c'est un accompagnement, oui, c'est un partenaire, la musique. Là où ça a été très, très subtil, c'est que Lucas, le créateur son, il a amené des propositions comme ça pendant les répétitions. Et c'est toujours très discret, il a une délicatesse dans la manière de faire ça, c'est-à-dire que la musique, elle peut partir sans qu'on... Elle peut démarrer sans qu'on la sente, et s'évanouir aussi de la même manière, ça c'est très délicat, moi j'aime bien ça, c'est pas des effets, même s'il y a un moment où on est obligé d'envoyer très fort la musique,
Ouais,
parce que
mais dans
c'est
la
un...
première partie,
Voilà.
précisément,
Mais sinon,
c'est ce que tu viens
c'est...
de dire.
Voilà. Et oui, ça accompagne complètement, et pour l'avoir essayé en répétition, enfin ça c'est toujours des moments où... vertigineux quand on s'est habitué à travailler une scène en musique, si tout à coup on la raccorde ou on la répète sans le son, on se dit non, il manque un
Oui,
truc,
voilà.
j'y arrive plus
C'est
là, ça marche
un
pas.
vrai partenaire.
Ouais.
Quand Alice, la fille donc de 7 ans, qui n'est pas une enfant comme les autres, je suis pas sûr qu'on ait à dire pourquoi, mais
Ouais.
qui n'est pas une enfant comme les autres,
Mais
admettons.
en même temps, c'est une question, c'est-à-dire que elle aurait comme des signes d'autisme, mais c'est juste qu'elle va très mal parce que ses parents vont très mal et que c'est une éponge. Alors après, on dit pas, on va pas stigmatiser une maladie en particulier, mais on oui, sait oui, qu'elle parle plus depuis, depuis des mois et qu'elle va mal. Ouais.
On le dit.
Ouais.
Donc quand Alice est avec sa Barbie et son Ken, elle ne répond plus, elle n'entend plus ses parents.
Ouais.
Bon, c'est plutôt aisé de dire que Alice est au pays des merveilles et que ses parents justement représentent l'exact opposé avec tous leurs problèmes contemporains type le père est chasseur de tête chez Publicis, la tranche de jambon dans le frigo, enfin bref, quel rôle joue la société de consommation dans cette pièce?
Bah c'est très présent, c'est l'arrière-plan, c'est comment comment exister dans tout ça, et surtout c'est l'absence de sens, c'est-à-dire que ce que dit chacun dans ce couple, pour lui c'est il ne fait que bosser un boulot qui l'intéresse pas avec un rapport hiérarchique qui l'insupporte, et il rêve d'une chose quand il découvre sur son set de table que avant
de chez Starbucks
qu'avant d'être un Starbucks et avant d'être d'être à la Défense, c'était des champs avec des cultures, et il y a une quête de sens comme ça, à se dire que on aimerait planter des choses, les voir pousser, les cueillir et les bouffer, et faire quelque chose qui a du sens. Je m'arrête là parce qu'elle va plus loin, Léonore, dans son texte, mais je veux pas faire la blague parce que c'est un besoin de sens, voilà. Et un besoin de sens aussi pour cette femme dans le couple, Barbara, parce qu'on les appelle Benjamin et Barbara, Ben et Barbie, pour Ken et Barbie, c'est l'équivalent.
Alors que dans la pièce, c'est lui et
elle et lui, et en fait, on les appelle comme ça. Et cette pauvre mère au foyer, elle souffre de ce syndrome réducteur de mère au foyer, qui est pourtant un vrai travail en soi, mais pas reconnu comme tel, et en plus elle s'occupe d'une fille qui va très mal, et elle voudrait travailler et sortir de chez elle et être reconnue et être indépendante, avoir son salaire et une chambre à soi, j'imagine, être dans autre chose. Donc c'est évidemment toute la société de consommation et le regard des autres, la pression sociale, on sait qu'il y en a une énorme, parce que par exemple on essaie simplement qu'Alice ait des amis pour son anniversaire et personne ne veut l'inviter. Les enjeux sociaux tout le temps, partout, cette oppression qui est insupportable.
Au fond, c'est un couple normal.
J'en ai bien peur.
Ouais.
Malheureusement, tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui à un moment où ils se lâchent et on les voit au pire du pire.
Ouais, parce qu'il y a des thèmes comme le mensonge amoureux, la difficulté d'être en couple aujourd'hui.
Et sur quoi ils ont fondé leur couple, si on avait un débat assez... c'était intéressant parce qu'on n'était pas tous d'accord. Sans dévoiler, je pense qu'on peut voir la pièce en sachant ça. C'est-à-dire que ils se sont rencontrés, cet homme et cette femme se sont rencontrés un soir, et il y a un mensonge originel. Elle a dit un truc pour arranger la vérité, et lui donc pense que leur histoire elle naît comme sur un coup de foudre, et alors que elle vient juste de se faire plaquer ce soir-là.
Coup de foudre a conditionné lui sa vision de la relation.
Alors est-ce que lui a été trop romantique? Pourtant il n'en présente pas toutes les caractéristiques par ailleurs, mais est-ce que c'est si grave finalement? Est-ce que c'est pas lui qui s'est raconté une histoire? Pourquoi ils en ont pas reparlé depuis, qu'ils ont pas démonté cette anecdote-là? C'est aussi étrange. Mais est-ce qu'il construit un couple? C'est tout ce qui s'est passé depuis, pas forcément cette situation-là soir-là. Mais là, dans la pièce, ça prend une importance particulière.
Est-ce que tu sais ce qu'on attend de toi dans cette pièce?
Hein?
Est-ce que tu sais ce qu'on attend de toi?
Mais qui attend rien? Personne n'attend rien.
Personne n'attend rien de moi.
Enfin, si le metteur en scène et l'auteur et ma partenaire attendent de moi que je joue ma partition au plus près de ce qu'on a travaillé, de ce qu'on affine chaque soir, des notes qu'on se donne. Mais en termes d'attente, après je sais pas ce que les spectateurs viennent chercher au théâtre, je sais pas s'il y a des gens
la presse leur présente, j'imagine.
Voilà.
Aussi.
Et si des gens m'ont vu jouer dans d'autres spectacles et qui viennent, est-ce qu'ils viennent pour être surpris? Et là j'espère qu'ils le seront, parce que moi je suis venu aussi sur cette pièce pour trouver des terrains de jeu sur lesquels je m'étais pas aventuré.
D'accord.
Et là je suis comblé, mais voilà.
Qu'est-ce qui a été le plus dur à jouer dans ce personnage? Est-ce que c'est la dualité? Est-ce que c'est l'aspect exubérant à certains moments? Est-ce que c'est le fait de porter un costume? Est-ce que...
Alors, le plus dur, c'est se raser tous les jours. Alors ça, ah, c'est, putain, ça, c'est vraiment... Chacun sa croix.
Ouais, mais non, je la partage.
Et plus sérieusement, non. On n'a jamais... Moi, j'ai jamais autant travaillé que c'est les 10 premières minutes Ken et Barbie. Je veux dire, sur les 5 semaines et demie de travail qu'on a fait, qui sont un temps normal de répétition, je sais pas combien d'heures on a passé sur cette première scène, mais c'est bien plus important que tout le reste, parce que pourtant
peut-être
c'est que 10 minutes.
Le physique qui entre en jeu beaucoup.
C'est pas ça, c'est juste que on... où est-ce qu'on met les curseurs? Est-ce qu'on a tout essayé? On a essayé en jouant avec des petites poupées, on a essayé avec des voix d'enfants, on a essayé en faisant les cons, en faisant habillé avec un costume et des chaussures à paillettes, tous les codes de la poupée, mais plus on bêtifie ça, plus on fait une blague, plus ça fait rire, mais ça fait rire moins longtemps, parce qu'au bout d'un moment, on se dit qu'est-ce que c'est? Et là, le choix du metteur en scène que je trouve très pertinent et judicieux, et qui était aussi la pensée de l'auteur, l'autrice, Léonore Confino, c'est de faire confiance aux spectateurs, qu'ils vont comprendre au fur et à mesure ce qui se passe. Mais si on joue trop un enfant qui joue avec des poupées, ouais. il est très sincère. Et pour lui, les adultes sont sincères, sauf qu'ils ont le vocabulaire d'une fille de 7 ans avec des préoccupations de Barbie. Donc c'est un endroit, et même encore, on s'en parle avec Elodie Navarre, ça demande une très grande précision pour ne pas cabotiner, pour ne pas déraper.
Bien sûr,
pour,
ouais. Voilà. C'est le vrai risque. Mm. Bah justement, en parlant de cabotinage, et qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on dise à propos de ce spectacle, ou en tout cas de ta prestation dans ce spectacle? Le cabotinage peut être une réponse acceptable d'ailleurs.
Ouais, non, j'aimerais pas qu'on dise tout ce qu'on tous les remparts qu'on s'est fixés. Ouais, ça veut dire qu'on n'aurait pas réussi. On n'aime pas les critiques, hein, mais oui, c'est une banalité de le dire. Qu'est-ce que non, je crois que la pire critique qu'on puisse faire pour un acteur en général, c'est pas sincère. Là, on s'y jette quand même. Voilà, moi je perds plusieurs litres de sueur chaque soir.
C'est vrai.
Et donc j'aimerais pas qu'on me dise que j'y vais à moitié, quoi.
Alors j'imagine que tu as lu, que tu as relu, que tu as re-relu le texte d'origine, que tu en as des interprétations personnelles ou des envies, que tu as envie de jouer certaines scènes de telle manière. Et comment on met justement ces envies de côté par rapport à celles du metteur en scène? Est-ce que vous en discutez? Enfin, est-ce que vous avez discuté?
Oui, bien sûr, on en parle, mais alors ça, moi, pour le coup, j'adore complètement. C'est-à-dire que... alors, j'ai fait un petit peu de mise en scène, mais dès que je suis acteur, je n'ai aucun problème à abandonner toute velléité. Je peux faire des propositions, mais comme tous les acteurs, les actrices, on a des intuitions. Mais quand on voit comme on est mal placé de l'intérieur, quand on propose une chose et qu'on voit qu'on a vraiment besoin d'un regard extérieur, on l'a vu là, si on n'était pas bien dirigé et affûté par Com, les scènes, elles n'en seraient pas là. Mais on est arrivé parfois avec des idées, des propositions, et Com en a gardé et refusé bien légitimement d'autres.
Ce qui est légitime.
Ouais.
D'accord. Alors j'imagine qu'il faut te souhaiter que ça soit le cas, mais tu aimes jouer longtemps une pièce, à l'instar de Réparer les vivants, que tu as joué. Arrête-moi si je me trompe, plus de 160 fois.
Et j'ai bien peur de dire très exactement 301 fois.
Ah oui.
Ouais.
j'en ai loupé une toute petite partie.
La 301e aux États-Unis il y a quelques mois. Ouais, okay. Sur 4 ans de tournée.
Ouais, ça.
J'ai
ça,
adoré
ouais.
le jouer, et c'est même difficile d'arrêter de le jouer tellement j'aime ce spectacle.
Et d'ailleurs, à quel moment tu te dis que le spectacle est rodé?
Ah,
donc j'imagine pas la 301e
fois,
mais...
Il est rodé quand il a bien vécu avec le public, c'est-à-dire
D'accord.
que quand je suis plus surpris de réaction de la salle, parce que un spectacle n'existe jamais avant d'avoir été éprouvé et modifié par les réactions du public.
Oui, c'est fait pour être joué de fait.
Donc,
hein.
Et puis il est rodé quand moi je l'ai dans le corps, et que je suis pas hors de souffle, sauf si ça le mérite dans le jeu, ouais. Mais que je suis en capacité physique, technique, mentale, technique de le faire. Là, ça veut dire que j'ai pas de surprise. dans l'exécution du truc et que je peux commencer à travailler, à préciser. Là, ça veut dire qu'on commence à être prêt et
toucher quelque chose.
Mais donc, ça peut prendre une vingtaine ou une trentaine de représentations. Okay. Ouais. Et après, c'est du plaisir ou de la précision. Quoi.
Ouais. Alors, j'ai lu dans une interview que lorsque tu jouais à Réparer les Vivants, qui est donc un seul en scène, tu essayais de pas trop avoir de rituel, hormis t'échauffer et de monter assez vite sur scène pour pas laisser trop de place à la pression. À deux, la pression, comment tu la gères après avoir été habitué à jouer très longtemps tout seul?
Exactement, c'est vrai qu'il a fallu, il faut se réhabituer. Alors entre temps, l'été dernier, j'ai joué avec 20 personnes au Théâtre du Peuple, donc là c'était complètement différent. Ouais. Aussi, je suis en tournée avec Zai de Fab Caro, où là on est.
Qui est une super BD.
On est 8 sur scène et on est présent sur le plateau à l'entrée des spectateurs. Donc, ça, c'est une manière de désamorcer le track. Avec Elodie, là, on est 2. On se concentre pas de la même manière. Moi, c'est vrai que j'essaye de pas avoir de rituel. C'est-à-dire que si la veille, j'ai fait comme. Je me suis préparé de telle manière. Le lendemain, j'essaie que ce soit pas exactement pareil. Mais du coup, ça devient un rituel de déritualiser le truc. Mais je veux dire, c'est désamorcer les superstitions et puis c'est essayer de me faire croire que j'ai pas le trac. C'est toujours ça. Voilà.
Et donc
j'arrive à me le faire croire. Ouais. Ouais.
Félicitations. T'es un bon comédien, du coup.
Pas toujours, mais plutôt bien.
Alors du coup, désormais, tu joues avec Elodie Navarre. On vient de le dire. Au-delà des différences concrètes qu'on imagine tous. Quel changement s'opère dans ta relation avec le spectateur? Ce qui globalement implique dans ta relation avec ton image sur scène, que tu sois seul ou à deux, il y a forcément des variations. Tu captes moins d'attention, et le public reste un partenaire, mais un partenaire probablement différent.
Ouais.
Qu'est-ce qui change par rapport à la solitude, un peu? Même s'il y avait une voix off dans, par exemple, Réparer les Vivants.
Ouais, bien sûr. Ah non, mais là. Alors, ce qui change, c'est... Oui, ça n'a rien à voir de jouer seul et jouer à deux. Ça change déjà le regard. C'est-à-dire que là, je réalisais, parce que je la connais bien, cette salle du Petit Saint-Martin, puisque j'avais joué une centaine de fois à Réparer les Vivants ici. J'étais en regard permanent avec le public. Et même avec la pénombre, je regardais les gens dans les yeux. C'est à eux que je racontais l'histoire. Et là, je ne les regarde jamais. Sauf au salut ou à deux petits moments où je regarde en miroir le quatrième mur, on fait comme s'il y avait un miroir, donc je regarde et j'aperçois des gens, mais sinon je vois pas les gens dans la salle. Et j'ai réalisé ça là il y a quelques jours, effectivement je les vois que au salut, et ça change beaucoup, parce que celle à qui je parle et qui voilà, avec qui je joue, et parce qu'on est en conflit aussi tout le temps, même si on se quitte des yeux, c'est Elodie, donc c'est ça qui change.
C'est très frontal. Ouais. Votre relation. Qu'est-ce que tu dirais à l'étudiant en droit que tu étais, qui s'est inscrit en cours de théâtre juste pour suivre un ami?
Oh merde, il y a du dossier là. Ouais, ouais.
J'ai quand même un peu cherché des choses.
Ah ouais, bien vu. Non, effectivement. Non, c'est drôle. On en a reparlé l'autre fois, c'est drôle. C'est le rapport aux autres, parce que moi, j'étais en première année de droit, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'en va, et je me dis, je vais m'emmerder, qu'est-ce que je fais? Je fais une liste de choses à faire, et la première, c'est du théâtre, point d'interrogation. Et j'ouvre l'annuaire et je prends le premier cours à Rouen. Voilà, de Nathalie Barabé, un B, c'est le premier cours dans l'annuaire, et je vais là-bas. Et j'ai détesté ce premier cours parce que je voulais juste voir comment c'était. Ils m'ont fait participer et j'ai été effrayé.
T'es quoi, pétrifié?
Ah bah ouais, il fallait faire une impro.
Ouais, j'imagine.
Et puis j'étais avec des gens plus jeunes que moi qui en avaient tous déjà fait, et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et c'est la question tout le temps. Et en fait, je suis parti de ce cours en me disant, mais plus jamais j'y refous les pieds. Et c'était un mardi à 19h30, et toute la semaine d'après, je me dis, bon, débarras, jamais, ça, je ne ferai pas. Et je sais qu'à 10, j'étais mal à l'aise tout le mardi, et à 19h, je regarde encore le Canal+, à l'époque, je me souviens très bien d'émission, et puis à 19h10, je me dis, et puis merde, et je claque la porte de chez moi en disant, j'y vais à ce cours, et tant pis ce qu'on pensera de moi.
Ça te plaisait un minimum, au fond?
Ben non, c'était quelque chose à dépasser. Okay. Fallait dépasser le qu'est-ce que les autres vont penser.
Il y avait une espèce de défi dans l'histoire. Quoi.
Et du coup, il est là, ça revient un peu à ta question d'avant. C'est-à-dire que je m'en fous de qu'est-ce qu'on va penser de moi. L'idée, c'est que je suis sur un plateau pour jouer autre chose que ce que je suis dans la vie. Et c'est moi, mais c'est pas moi. Et je vis plusieurs vies et je vis beaucoup plus que si j'étais resté. Actuellement, je serais prof en université, peut-être, parce que j'aimais ça. Mais je vis plus de vie là en étant c'est ce en ce moment ce mec au bord du burn-out. Et il y a quelques mois, Dorante dans Le jeu de l'amour et du hasard.
C'est ce qui fait de toi un comédien, en fait, de vivre toutes ces vies.
Toutes ces vies.
S'il y avait un personnage, un seul personnage, qui résume et qui incarne le théâtre pour toi.
Oh putain. Faut pas
ah bah
pas
là, vulgaire. On arrête de parler aux suction, pas de vulgaire. Enfin, pas trop non plus.
Non, mais qu'il y a un personnage. Je sais pas.
Il y en a un qui t'a marqué dans ta vie de spectateur, peut-être, ou de comédien d'ailleurs.
Dans ma vie de spectateur, qu'est-ce qui m'a bouleversé? Moi, j'ai des grands bouleversements, mais avec des acteurs seuls en scène, mais des voix et sur des poètes. Je pense à Trintignant, par exemple.
Okay.
Ça, c'est des bouleversements intérieurs. Après, sur des mises en scène, c'est des auteurs. Je me souviens de La Cerisée montée par Françon. Et effectivement, s'il y a des auteurs ou des personnages qui résument, enfin, en tout cas, qui rassemble tellement d'émotions, pour moi, c'est les personnages de Tchekhov. Ça, moi, j'ai un rendez-vous.
Okay.
Je n'aurais pas bien fait mon métier si je ne me confronte pas à cet auteur-là.
Et d'ailleurs, Réparer les vivants, c'est...
Mais oui, il y avait totalement. Y a Tchekhov. Bien vu, ouais. C'est emprunt. Maëlys de Kerangal a emprunté la formule à Tchekhov.
Ouais. Quel texte tu rêves de jouer? Je pense qu'on vient un peu d'y répondre.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais.
C'est...
Est-ce qu'il y a un texte en particulier?
Non, tout dans Tchekhov me touche après. Hein. Oui, j'ai des envies, mais voilà, juste. Et surtout être dirigé là-dedans, être amené à ces personnages qui essayent de ricaner alors qu'ils sont désespérés, à cet humour et cette sensibilité, ce regard sur la vie des autres. Ouais, ça, c'est beau. Et j'ai de la chance, je vieillis, je vais vers des rôles. Qui peuvent être touchants chez Tchekhov.
Et t'es quel genre de spectateur? Tu vas beaucoup au théâtre?
Tu sélectionnes tes pièces? Dès que je peux, là, par exemple, comme j'ai beaucoup bossé l'année dernière, j'étais en manque, je suis allé beaucoup au théâtre en fin de saison et j'ai vu. Et je suis allé à Avignon, j'ai vu 14 spectacles en 4 jours et un soir.
Félicitations.
Et j'adore ça. Ouais, je suis un spectateur frustré. Là je suis allé les jours off, j'essaye d'aller au théâtre, mais bon, j'ai aussi une vie de famille et je suis un grand spectateur de mon fils de 5 ans. Et c'est mon spectacle préféré aussi. Donc, voilà.
C'est les meilleurs. D'ailleurs, le théâtre, c'est pour tout le monde.
Ah ouais. Évidemment. Ouais, évidemment. C'est une banalité de le dire, mais c'est pour tout le monde sur scène.
Ouais.
C'est-à-dire que ça fait tellement du bien. Moi, j'ai jamais autant grandi et progressé en humanité que qu'en prenant des cours de théâtre et en regardant les autres. Et en regardant les autres sur scène, en entendant les monstruosités ou les beautés des textes des grands auteurs dits par d'autres. Et si tout le monde s'essayait un peu plus comme spectateur, voilà, on est confronté, on a nos certitudes qui sont ébranlées, on réfléchit, on est confronté au monde. Et soi-même, monter sur un plateau, on est confronté à soi et on se dépasse un peu et on grandit un peu. Ça, moi, ça vaut des thérapies. Ouais.
Ok, bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que je te parlais tout à l'heure l'image de toi que tu avais. Donc, tu as des modèles, en tout cas des inspirations, j'imagine.
Ouais.
Tu en as peut-être un peu parlé à travers ce que tu viens de citer. Tous ces modèles que subrepticement je t'invite à nous donner, qu'est-ce qu'ils ont en commun pour toi? Ceux qui t'ont inspiré, ceux qui t'ont presque fait comme comédien.
C'est-à-dire qu'il y a, je crois que comme modèle, on a les modèles, on a des acteurs modèles. Bon, moi, ce sont des voix qui me touchent.
Ouais.
Effectivement, j'ai parlé de Trintignant, évidemment.
Une voix, ça peut être aussi un jeu. Hein.
Un jeu aussi.
Enfin, c'est pas
mais,
ça
oui,
peut,
parce
c'est...
que mais la parce que la voix trahit tout. Et ouais. Moi, j'ai découvert le chant tardivement, mais effectivement, c'est tellement impudique, le chant, ça raconte tout de quelqu'un. Et dans les voix, et ce que j'aime dans la voix de Jean Rochefort, par exemple, c'est ce qu'il est derrière. Il y a son ouais. élégance et son humour. Enfin, donc il y a des acteurs comme ça qui nous ont construits, qui nous ont fait rêver. Moi, j'ai adoré enfant voir Belmondo, évidemment, Lino Ventura, Delon aussi. Ça n'est plus actuel. Hein. Il y a des modèles qui nous quittent, qu'on a perdus. Mais après, il y a des modèles dans les textes, dans les écritures. Ouais. Ça, c'est des modèles de théâtre, des écritures, des modèles de metteurs en scène qui nous disent « Mais ça, c'est du théâtre vers lequel je veux aller. » Et des contre-modèles, des trucs où on se dit « Mais ça, c'est jamais j'irai par là. » Et puis, il y a des modèles dans la vie aussi. Il y a des gens ouais. qu'on croise et on se dit « Mais ça, cette humanité-là, tu la mets sur un plateau. Waouh, ça me touche. »
Ça
on voit. Et je pense qu'on voilà, on essaye, d'être, je crois, quand on est acteur, d'être une éponge et de se dire « Ça, si un jour... » Enfin, je ne sais pas ce que mon cerveau retient, mais je suis un spectateur dans la vie aussi et je me dis « Tiens... ok, ça me parle, je le retiens. Je ne sais pas dans quel cas ça va, mais on est surpris parfois en répétition de sentir des choses qui viennent et de se dire, mais en fait, ça répond. Je ne sais pas d'où je le sors, mais et puis finalement, on arrive à se souvenir d'où on le sort et ça a été une observation dans la vie.
Ok. Et une petite question que je pose à tous mes invités. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels ? Alors, pas que théâtre, bien évidemment.
Alors...
Et pas que nouveauté.
Non, bien sûr. J'ai beaucoup aimé Péléas et Mélisande au théâtre de Julie Duclos. J'ai trouvé que c'était tout m'a plu, moi, dans ce spectacle.
Ça a le mérite d'être clair.
Ouais, non, mais c'est ça, parce que à la fois il y avait une scéno assez imposante, mais c'était fin et bien éclairé. Et il y avait une distribution remarquable. Et dire autant de poésie, l'air de rien, et avec une inquiétude, aussi une menace. Je pense à ce que faisait Vincent Dicenz, mais je pense à toute la distribution, je les ai trouvés formidables. Et il y a une modernité aussi dans le traitement et dans le.
C'était où Donc c'est où d'ailleurs?
Alors, je les ai vus à Avignon, okay. Mais je sais qu'ils commencent une tournée là bientôt. Et non, je recommande ça. Je trouve que voilà, ça m'a touché et c'était intelligent et très sensible. Voilà, c'est la chose qui me revient comme spectacle en tout cas.
Ouais, ok. Ouais. Et pour finir, ton actu du moment, hormis les beaux, est-ce qu'il y a, je sais pas, d'autres projets en parallèle? C'est jusqu'au 9 novembre, c'est ça?
Oui, ou plus si affinité avec ouais. le public. Et alors, je vais faire deux lectures à la Maison de la Poésie, parce que j'aime beaucoup faire ça. Il y a une lecture notamment d'un jeune auteur là, qui est sur la liste du Médicis pour un premier roman qui s'appelle La Chaleur.
Victor Gesta.
Ouais. Tu l'as lu aussi?
Je l'ai lu, ouais.
T'as vu
ouais,
ça
ouais, c'était un premier roman. Pour un premier, en plus, c'était très...
Donc, je suis très curieux de le rencontrer, très heureux de faire cette lecture. Je vais faire aussi une lecture d'un autre roman de Charlie Delworth qui s'appelle Data Biographie.
Oui, qui va peut-être passer ici, d'ailleurs.
Ah, mais tu me l'as promis, au courant de tout, bravo. Bravo, Thomas. Et voilà, après, moi, j'ai des idées, d'autres envies de mise en scène. Je réfléchis à des choses, mais sur des
choses... Ouais, on est en période de gestation.
C'est-à-dire que, pour tout te dire, j'ai bataillé pendant 3 ans sur un roman dont j'avais l'adaptation en tête et qui aurait été magnifique parce qu'il fallait que ça aille au théâtre et l'auteur n'a pas voulu que ça soit du théâtre.
Tu ne diras pas quoi, mais ok.
C'est ce que je fais. Je ne veux pas lui mettre plus la pression. On s'en est parlé. Lui et son éditrice ne veulent pas que ce soit du théâtre. Ils veulent bien que ce soit du cinéma. Et alors ça m'a énervé. Je leur ai dit, mais c'est dégueulasse. Vous donnez les droits au cinéma. Il va y avoir un scénario. Certes, l'intrigue, elle est super. Donc, ce sera un super scénar. Mais là où on a les mots, la langue et la plume d'un auteur, c'est au théâtre. Et ils ne veulent pas que ce soit du théâtre. Donc, ça m'a attristé. Mais j'ai vécu l'exact contraire de ce que j'avais vécu avec Malice de Kerangal, ouais. qui, elle, m'a dit oui tout de suite. Donc voilà, c'est formateur. J'ai un autre roman en tête pour lequel je vais peut-être essayer de diriger un acteur seul. On est en train de voir ça. Et puis, mais j'ai aussi envie, là je suis heureux du coup de n'être que acteur et être dirigé par d'autres. Et j'espère continuer encore longtemps comme ça.
Trop cool. Merci Emmanuel.
Merci beaucoup à toi.
Et bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'était déjà le 15e. Ça passe à une vitesse vertigineuse. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à écouter également. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à en parler autour de vous. C'est probablement le plus important. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. À plus tard.